Arcagna, Jacques Lavergne, bonjour. Arcagna, l'émission résiliente. C'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. C'est de Victor Hugo, déjà, à la mi-19e siècle. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture et plus spécifiquement d'élevage et de son impact sur la planète avec notre invité. Et puis, si le temps nous le permet, nous commenterons avec lui quelques nouvelles brèves que nous offre l'actualité. Je ne suis pas seul au micro, je suis en compagnie de Thibaut de Surville qui est étudiant à l'ISJT, comprenez, Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Bonjour Thibaut.
Bonjour Jacques.
Et nous commençons par une citation, donc je vous donnerai le nom de l'auteur si personne ne le reconnaît. Ouvrez les guillemets, il faut évaluer l'agriculture à la fois pour ses impacts et pour les services qu'elle fournit à la société. Michel Duru, vous êtes notre invité, vous avez reconnu l'auteur de cette phrase ?
Oui, bien sûr.
Bon, voilà, c'est très agréable d'avoir l'auteur de la citation. Il m'arrive de citer Victor Hugo, Baudelaire, etc. Je ne les ai jamais en face de moi, là c'est très agréable. Merci d'être venu à notre invitation dans ce studio Gisèle Halimi d'Esprit Occitanie. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes directeur de recherche chargé de mission à l'INRAE. Et puis également, vous avez d'autres. Vous êtes membre de différents conseils scientifiques. Si vous voulez les citer, vous pourrez le faire. Vous avez une carrière longue et fournie. Hein. Vous avez au moins 40 ans de carrière, j'ai cru comprendre. Vos recherches ont surtout porté sur les prairies permanentes et les systèmes d'élevage de ruminants. C'est ça ?
Tout à fait.
Deuxième thématique, parce qu'il y en a eu quelques, je les ai annoncés les quatre, je vais les donner les quatre. Deuxième thématique, l'approche intégrée des systèmes d'élevage en prenant en compte l'effet de l'alimentation des animaux sur la santé humaine au travers de la composition des produits, la viande, le lait, etc. Et j'ai cru comprendre, puisqu'on en parlait au micro, que c'est une de vos matières fortes et que vous continuez à explorer. Troisième thématique, elle a porté sur la caractérisation originale des exploitations agricoles. Alors, pour aller plus loin que la dichotomie habituelle, agriculture conventionnelle, agriculture biologique. Et puis, vos travaux récents portent sur, ouvrez les guillemets, la santé globale. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est. Mais autrement dit, et vous l'expliquez très bien sur Internet, comment relier la santé des sols, des plantes, des animaux, des écosystèmes et des humains. Donc, très, très, très grand chantier, très actuel. Voilà quels ont été vos axes de recherche. Quels sont aussi vos axes de recherche ? Alors, moi, je vous ai invité pour parler d'élevage et de l'impact de cet élevage sur l'environnement. Mais parler d'élevage aujourd'hui, ça signifie quoi ? Ça recouvre quoi ?
Alors, l'élevage, on parle d'élevage domestique, hein ? Dans les exploitations agricoles, donc on a déjà plusieurs familles d'animaux. On a les bovins, c'est-à-dire les vaches, et aussi les ovins, donc l'ensemble formant les ruminants, donc qui ont la particularité de manger de l'herbe, et donc ils nous fournissent du lait et de la viande. Et on a ce qu'on appelle les monogastriques, c'est-à-dire les porcs, les volailles, les poulets, pintades et autres, donc ils nous fournissent de la viande aussi, et des œufs. Après, comme vous le disiez, l'agriculture, comme vous le rappeliez, ça a des impacts et l'élevage, ça a des impacts extrêmement importants sur l'environnement, mais ça peut aussi rendre des services à la société. Donc on va pouvoir un petit peu détailler, parce que qu'on parle d'élevage bovin, de porc, ils ne se ressemblent pas. Le grand public connaît les élevages dits conventionnels ou biologiques, mais la réalité est beaucoup plus riche. On va pouvoir détailler, je pense.
Alors oui, l'élevage, ben, ça sert à, vous l'avez dit, ça sert à faire manger les hommes. Donc il y a le producteur d'un côté, en bout de chaîne il y a le consommateur, mais le problème c'est que entre les deux, il y a beaucoup de gens qui s'agitent. Il y a des filières, il y a des coopératives. Il faudra parler également, mais vous allez nous en parler, de la taille des exploitations, parce que l'agriculture c'est un monde extrêmement disparate. Hein. Selon la région où l'on se trouve, en montagne, en plaine, en bord de mer, selon la taille des exploitations, petites, familiales, grandes, industrielles. Bon, on n'en est pas encore à la ferme des 1000 vaches, je crois qu'elle ne s'est jamais faite, mais aux États-Unis, c'est plus que 1000, hein. Ce sont des milliers de têtes. Donc au milieu de toute cette profession très très diverse qui finalement n'a pas forcément les mêmes problèmes ou buts économiques, sociaux, financiers. Comment on s'y retrouve? Comment on peut parler d'élevage? Il faut serrer par catégorie?
Oui. Alors déjà, il faut voir l'impact global de l'élevage. Donc si on en reste en France ou en Europe, c'est un petit peu pareil. Rappelons que l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Après, il y a les transports, l'énergie, l'habitat et autres. Et quand on parle d'agriculture, les gaz à effet de serre, ce n'est pas le CO2. C'est-à-dire, c'est pas le gaz carbonique,
c'est le méthane.
Le tracteur. Donc, pour 15%, c'est l'électricité, le gaz, le pétrole. Et pour le reste, ça se sépare en moitié, en gros, c'est le méthane. Donc, le méthane, c'est ce qu'on appelle la fermentation entérique des vaches. Et pour partie aussi, c'est les émissions de méthane à partir des déjections animales, si vous voulez, des fumiers, des lisiers.
Qui ont un pouvoir réchauffant assez considérable.
J'arrondis tout, 30% plus fort. Et les 40% qui restent, c'est le protoxyde d'azote. Donc, c'est des émissions qui proviennent essentiellement des engrais azotés que l'on met dans les champs. Donc, il y a une volatilisation. Et là, c'est 300 fois plus puissant que le CO2. Donc, je résume, 15%, c'est le CO2. Le reste, on le partage en gros entre le méthane et le protoxyde d'azote. L'azote, le protoxyde d'azote, c'est dans les champs, mais les champs, ils servent à produire du blé pour nous nourrir, nous, mais ils servent aussi à produire du blé pour nourrir les vaches.
Donc ça veut dire que manger de la viande, je ne vais pas arriver à la conclusion, mais manger de la viande, c'est quand même pour la planète, pour l'avenir, non pas de la planète, mais des homo sapiens qui la peuplent, c'est quand même très problématique.
Eh oui, parce que là, on vient de voir les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup du climat, mais si on regarde les émissions d'azote, c'est-à-dire c'est de l'ammoniac qui provient aussi des déjections animales, c'est un précurseur des particules fines, qui est à l'origine, ou un facteur de risque, pour les maladies pulmonaires. Les fameux nitrates, quand ils proviennent beaucoup de l'élevage, donc c'est les fameuses marées vertes, si vous voulez.
Là, on parle de la Bretagne, peut-être.
On parle surtout de la Bretagne.
Et des élevages de cochons. Il y a eu quand même des morts en Bretagne.
Oui,
il y a eu un cheval qui est mort, mais il y a aussi...
Alors c'est lié à la fois, c'est lié en partie à la trop forte concentration de l'élevage. Dans le Lot, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est pas le cas.
Dans le Lot encore.
Donc l'élevage est aussi très inégalement réparti. Donc je parlais des gaz à effet de serre, de l'azote, mais après, si on parle aussi des ressources nécessaires pour manger, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est pour produire 100 grammes de protéines, il faut beaucoup plus de terre si c'est des protéines animales, donc de la viande, que des protéines végétales, par exemple les lentilles ou les pois chiches. C'est pareil pour les consommations d'eau. Donc si j'arrondis, et sans exagérer, en minimisant, consommer des produits animaux, c'est 2 à 5 fois plus d'émissions dans l'eau et dans l'air, donc de gaz à effet de serre et de nitrates. Et c'est aussi beaucoup plus de besoins en terre pour se nourrir et de besoins en énergie et en eau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas consommer de viande ou de produits animaux, mais il faut en consommer modérément. Mais ça, c'est un autre sujet.
Vous parliez de besoins en terre, ça va jusque dans certains pays, pas forcément chez nous, mais jusqu'à de la déforestation de masse.
Et nous y contribuons, parce que les élevages européens et français sont très dépendants des tourteaux de soja. Donc soja qui est cultivé en Amérique latine, Argentine et Brésil. Et compte tenu de la forte demande internationale de soja, c'est-à-dire en Europe et en Chine principalement, Donc on déforeste pour cultiver le soja que nous, nous importons pour donner aux, surtout aux poulets, un peu aux cochons et aux vaches. Donc nous contribuons indirectement à cette déforestation.
Ça veut dire que nous ne sommes pas, nous n'avons aucune indépendance au point de vue de la nourriture de nos animaux. On n'est pas en capacité aujourd'hui de produire suffisamment de grains, de maïs, de blé, je ne sais pas.
Alors, pour le blé, prenons l'exemple du blé, c'est très emblématique. Si on en produit 100, par exemple,
oui.
12-15% c'est nous, pour nous nourrir nous. 50% c'est pour l'exportation. Et les 40% qui restent, c'est pour nourrir les animaux. On utilise déjà beaucoup de blé, de céréales, de maïs pour nourrir les animaux.
Et pourquoi on exporte ce blé et ce maïs alors qu'on pourrait le garder pour nourrir nos animaux sans devoir faire venir ces fameux tourteaux de soja?
Alors de toute façon, ce qu'il faut bien voir, pour nourrir les animaux, comme pour nous, il faut de l'énergie et des protéines. En fait, en France, nous sommes autonomes pour nourrir les animaux en énergie. C'est-à-dire le blé, le maïs, les prairies, mais nous ne sommes pas autonomes en protéines. Les protéines, c'est ce qu'il y a dans le soja. Et donc, si on voulait être autonome en protéines, il faudrait cultiver plus de soja, mais nous ne sommes pas compétitifs, ou des cultures alternatives, cousines, comme des févroles, comme la luzerne. Mais si on développe ces cultures, ça veut dire qu'on va moins exporter de céréales.
Oui, puisque...
Et les céréales, ça fait partie, c'est un emblème de l'agriculture française qui contribue à avoir une balance commerciale positive de ce point de vue-là. L'autre solution, eh bien, c'est de dire on va conserver l'exportation de céréales, mais on va intensifier les cultures, c'est-à-dire produire plus sur la même surface pour nourrir les animaux. Mais si on produit plus sur la même surface, ça veut dire que dans le contexte actuel, ça va être encore plus d'engrais et de pesticides, alors que c'est des problèmes déjà en agriculture. Donc il n'y a pas d'autre solution que ce que j'appelle réduire la voilure, c'est de consommer moins de protéines animales.
Alors, on y vient doucement, puisqu'il semblerait quand même qu'on mange de moins en moins de viande.
Alors c'est partiellement faux. Le poulet, au contraire, nous en consommons de
donc
plus en plus.
Donc partiellement vrai aussi.
Mais, alors je m'explique, pour le poulet c'est faux, parce que la consommation explose actuellement. Ouais. Et pour un poulet bas de gamme, donc nous l'importons beaucoup d'Europe en fait, beaucoup plus que du Brésil, actuellement. Et pour la viande rouge, par exemple bovine, en fait, ce qui se passe, c'est que la production baisse un petit peu, compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles vivent les éleveurs, mais la consommation, elle baisse pratiquement pas. Donc, nous importons de plus en plus de viande bovine. Et pourquoi nous importons de la viande bovine? C'est parce qu'en France, nous avons fait le choix du le consommateur, c'est de consommer du steak haché. En priorité, plus de la moitié de la viande qu'on consomme, c'est du steak haché. Et ce steak haché est fait avec les parties avant de la vache, c'est-à-dire les morceaux les moins nobles. Nous n'en avons pas suffisamment, donc on l'importe d'Allemagne, y compris en Occitanie.
Le steak haché, c'est de steak qui est servi dans des restaurations rapides?
Oui.
Ça veut dire que la restauration rapide, aujourd'hui, a pris le pas sur tout le reste?
Oui, tout à fait. Elle s'approvisionne quasiment exclusivement à partir de ces produits. Dans la restauration rapide, mais aussi dans la restauration commerciale, ou tout ce qu'on appelle la restauration hors domicile. Et ça conduit à déstabiliser complètement les filières françaises.
Est-ce que chez soi aussi, on peut manger du steak haché?
Oui.
Vous parlez de la consommation hors domicile. Ah, je vois que Thibaut, à son âge, il doit manger du steak haché dans la restauration rapide. C'est le cas, Thibaut?
C'est ça. Et d'ailleurs, selon une étude que j'ai vue de National Geographic, un hamburger de restauration rapide à 450 grammes, donc c'est deux steaks hachés, ça équivaut aujourd'hui à une ampoule de 60 watts allumée pendant 200 heures. Mmh. C'est un chiffre quand même assez impressionnant. Mmh.
Ça fait écho à ce que je disais sur la consommation d'énergie nécessaire.
Cette consommation d'énergie, elle vient d'où? Elle est provoquée par quoi?
En fait, soit on consomme des protéines végétales qu'on trouve dans le pain, mais surtout dans les légumineuses, la lentille, le pois chiche. Donc il y a tout un des processus agricoles, il faut semer, il faut récolter, trier, et on a ces protéines. Soit on passe par l'animal, il faut d'abord produire les protéines végétales. Il faut produire du blé, il faut produire du soja. Et ce que je dis de manière familière, quand on rallonge la tuyauterie pour produire des protéines, c'est-à-dire qu'on passe par l'animal, on rallonge la tuyauterie, il y a des fuites. Il y a des pertes d'azote, il y a des pertes d'énergie. Mais c'est pas pour autant qu'il faut condamner l'élevage.
Ouais, c'est un peu paradoxal, oui. Parce que vous êtes en train de nous démontrer qu'il n'y a pas pire que l'élevage pour l'état de la planète, et par ailleurs, vous nous dites qu'il ne faut pas le condamner. Alors, comment on résout ce paradoxe?
Alors, bon, déjà, si les personnes qui veulent être véganes et végétariens, il n'y a pas de problème, mais ça suppose quand même d'être relativement au fait des équilibres alimentaires pour compenser un certain nombre de déficiences. Ça suppose aussi, quand on prend des protéines végétales, on sait maintenant que c'est tout à fait possible de s'en nourrir, mais c'est assez précis, parce que les protéines, les légumineuses, par exemple, sont pas bien, n'ont pas un bon équilibre en acides aminés, comme la viande. Et donc, il faut associer au cours du même repas une légumineuse et une céréale. Pois chiches, couscous, par exemple, ou riz, haricots. Donc, c'est des choses faisables, mais qui le sait, ça?
Donc, il faut une éducation.
Il faut une éducation. Ça, c'est fondamental, quoi.
Et en plus de ça, vous parliez des repas hors domicile. Oui. Au domicile, on peut peut-être s'organiser pour avoir cet équilibre, mais dès qu'on sort au restaurant, c'est plus possible.
Ben, c'est plus possible. L'autre jour, j'étais à Toulouse, à un restaurant, je m'assois, et après avoir passé commande, je m'aperçois que la viande n'était pas française. C'était signalé, mais je n'avais pas pris la précaution de la vérifier avant, quoi. Après, il faut distinguer les produits animaux. Si je prends ce que je connais bien, les ruminants, c'est-à-dire que les vaches, ben les vaches mangent de l'herbe, quoi. Donc des fameuses prairies permanentes, comme vous l'évoquiez, c'est ce que j'ai étudié au début de mon parcours de recherche. Mmh. Or, les prairies permanentes, ce sont un peu comme des forêts, c'est-à-dire qu'elles ont des stocks de carbone dans le sol, et donc si on les retourne, si on les laboure, c'est comme une déforestation. On la fasse au Brésil ou chez nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on laboure, on va libérer tout le carbone qu'il y a dans le sol. Et donc, ça contribue massivement au changement climatique.
Donc, vous faites partie de ces gens qui, comme M. Sellos, par exemple, oui, que vous connaissez certainement très bien, que j'ai lu avec bonheur, qui nous dit il faut arrêter de les labours, au moins les labours profonds, où on retourne la terre complètement.
Oui, alors il y a deux choses. Il faut arrêter le labour profond partout, mais en plus, pour des prairies, donc, qui sont des fois centenaires, il faut absolument... Parce qu'elles ont encore plus de carbone dans le sol que les terres arables qui servent à faire le blé et autres. Donc les prairies, il ne faut pas les retourner parce qu'elles ont des stocks de carbone, mais aussi parce qu'elles jouent un rôle environnemental. C'est-à-dire que le fait d'avoir des prairies à côté des zones de culture permet d'avoir ça constitue en quelque sorte ce qu'on appelle une infrastructure écologique qui permet d'avoir le gîte et le couvert, par exemple de la coccinelle qui va manger le puceron. Donc si on veut réduire les pesticides et les engrais dans les terres arables, les terres labourées pour faire du blé, du soja, du tournesol, il faut qu'il y ait ces infrastructures écologiques. Et les prairies en sont une forme. Donc les supprimer, ça a deux inconvénients. On supprime, on libère du carbone, on contribue au changement climatique et on perd ce qu'on appelle les régulations biologiques qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides.
Enfin,
et donc, si la vache mange de l'herbe, c'est bon pour la planète.
Ouais.
Et donc, par contre, il faut que nous humains, soyons capables de repérer, savoir si le lait ou la viande provient d'un animal qui a mangé de l'herbe. Et alors, actuellement, on ne le sait pas.
On ne le sait jamais.
Je le sais un peu.
Oui, parce que vous êtes un spécialiste, mais le consommateur lambda, comme je suis par exemple, bon, quand il voit arriver son steak dans l'assiette, il ne sait pas du tout comment la bête a été nourrie. Oui. On peut le voir?
Alors, le plus facile, c'est pour le lait.
Oui.
Donc, il n'y a pas, c'est pas mis sur l'emballage, mais on sait actuellement que le lait, et donc le fromage, le beurre, la crème, issus d'une agriculture biologique, est quasiment fait à l'herbe pour des raisons à la fois d'économie et d'éthique. C'est-à-dire les éleveurs laitiers qui sont en agriculture biologique, pour des raisons d'économie, n'ont pas intérêt à importer du soja du bout du monde. Mmh. Donc pour minimiser les coûts, ils élèvent leurs animaux à l'herbe. Donc pour le lait, c'est assez simple. Oui, pour la viande, c'est un petit peu plus sophistiqué. Parce que le plus souvent, la vache mange de l'herbe. Mais pendant la phase d'engraissement, donc avant l'abattage, elle mange beaucoup de maïs soja, quoi. Et donc là, je n'ai pas de recette simple, alors qu'elle est disponible pour le lait, quoi.
On fait une pause musicale pour essayer de digérer, si je puis dire, toutes ces informations. C'est votre choix. C'est un de vos collègues trompettistes, puisque vous nous avez avoué l'être. Winston Marsalis.
Tout à fait.
On l'écoute. Voilà Winston Marsalis, le choix de notre invité, l'ingénieur agronome Michel Duru, qui est en train de nous faire découvrir tout un monde que nous ne soupçonnons pas. Hein. On parle bien sûr d'élevage, mais on parle surtout en tant que consommateur, on parle de ce que nous mangeons, de comment cela a été élevé, et comment c'est arrivé dans notre assiette, et il semblerait qu'entre le producteur qui fait ce qu'il peut et notre assiette, il y a des quelques... Je ne sais pas, on dit des dérapages, c'est ça ?
Par exemple, oui.
Oui, parce que là, vous êtes en train de nous démontrer que l'on peut, on doit manger de la viande, on doit continuer à avoir une alimentation animale, mais dans des proportions beaucoup plus modestes, ne serait-ce que pour des raisons de santé, de diabète, de toutes les maladies cardiovasculaires, on les connaît. Mais ce que vous nous dites est fort logique. Mais comment réagissent les agriculteurs quand vous leur dites ? Parce qu'ils ne vont pas du tout dans ce sens-là, les agriculteurs. Aujourd'hui, on parlait de ne pas labourer, on parlait des prairies, on parlait d'un élevage où finalement les bêtes sont nourries à l'extérieur. Ce n'est pas le cas de tous les animaux. Il y en a beaucoup qui ne sortent jamais. On parlait du lot tout à l'heure. Moi, je vois des chèvres, par exemple, qui ne sortent jamais... De la grange, enfin pas de la grange, maintenant ce sont d'immenses hangars, mais elles ne sortent jamais. Donc comment on fait la différence entre ces bêtes qui sortent et celles qui ne sortent pas déjà ? Est-ce qu'il y a là...
Alors actuellement, il n'y a pas moyen de savoir.
On ne sait pas.
Ceci dit, le gouvernement a pris l'initiative il y a 3 ans de promouvoir un label environnemental, un score environnemental à l'image du Nutri-Score. Vous connaissez tous le Nutri-Score,
mais c'est
de eux. Donc ça, c'est pour la santé, même si ce n'est pas parfait, c'est quand même un pas en avant. Et donc, ce qui est en projet, c'est la même chose, un score pour l'environnement. Et là, il y a deux dispositifs en étude, si je puis dire. Il y en a un qui ne regarde surtout les côtés négatifs de l'agriculture. Savoir, l'agriculture, ça pollue, ça utilise des surfaces, ça acidifie l'océan, ainsi de suite. Et puis, on corrige un peu, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'agriculture, ça a aussi des côtés positifs. Par exemple, si on ne laboure pas, on peut séquestrer du carbone dans les sols, on peut améliorer la qualité de l'eau. Donc voilà. Un certain nombre de mouvements citoyens ont contesté le bien fondé de cette approche, qui regarde surtout les côtés négatifs. Et on dit qu'il faut aussi regarder les côtés positifs, c'est-à-dire les services que rend l'agriculture à la société. Par exemple, sur la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité. Et donc, il y a des algorithmes différents. Et puis, ce dispositif tient compte aussi du bien-être animal, justement. Est-ce que les animaux sortent ou pas, comme vous le disiez, quoi. Et si on en reste à l'élevage, ce qui ressort dans la comparaison de ces deux dispositifs actuels, qui ne sont pas encore vraiment publics, c'est que le dispositif qui tient compte surtout des impacts négatifs de l'agriculture, il va privilégier les élevages intensifs, c'est-à-dire les animaux qui ne sortent pas, quoi. Alors que le dispositif qui tient compte beaucoup plus des services que peut rendre l'agriculture et en partie l'élevage à la société, eh bien, il va plutôt favoriser, mieux noter, dont le ABCDE, si vous voulez, les élevages, par exemple, à l'herbe pour les bovins, quoi. Et actuellement, le gouvernement ne tranche pas, quoi.
Quand on regarde l'élevage des cochons, on évoquait tout à l'heure les algues vertes, on évoquait la Bretagne. Les cochons, ils sont jamais. Ils sont sur des surfaces artificielles, dans un tout petit périmètre. Le bien-être animal, vous les évoquiez à l'instant, on se demande où il est.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Alors, les cochons peuvent sortir.
Ils peuvent, mais oui,
Non, mais il y a quelques cas en France. Il y a le porc gascon, par exemple.
Oui, il y a le porc noir, des choses comme ça, mais c'est anecdotique.
C'est 1%, quoi. Oui, les poules, pareil, peuvent sortir. Mais tout ça, c'est... Alors, le problème, c'est que c'est plus... si on fait sortir les animaux, et si on les met, s'ils sont moins denses dans les bâtiments, ça coûte plus cher, quoi.
Voilà, ça coûte plus cher.
Ce qui est dit, c'est que le consommateur n'est pas prêt à payer. Et donc, actuellement, on faisait tout à l'heure, on parle de la restauration hors domicile. C'est le bas de gamme, si je veux dire. C'est les prix les plus tirés possibles dans les supermarchés. Et donc, des élevages plus vertueux comme ça ne sont pas compatibles avec des prix bas. Mais tout ça, pour quelque chose de très important, actuellement, on ne tient pas des coûts cachés de la nourriture. Différentes études, j'en ai fait la synthèse il y a 2 ans, et la FAO vient de le rappeler il y a 6 mois. En France et en Europe, quand on dépense 1 euro pour se nourrir, il faut 1 euro pour réparer la nature et la santé. En France, ces coûts cachés sont estimés à 170 milliards d'euros. Et il y a 4 facteurs qui sont à l'origine de ces coûts cachés. 4 facteurs principaux, ce sont des excès. Excès d'utilisation d'azote de synthèse, j'en ai parlé, les nitrates, le protoxyde d'azote. Oui. Excès d'utilisation des pesticides. Excès de consommation des aliments ultra transformés. Et les charcuteries en font partie. Et excès d'élevage sans lien au sol, donc un élevage qui est très dépendant d'achat de maïs, mais surtout de tourteaux de soja, et l'excès de consommation de protéines animales. Ces excès génèrent des coûts cachés
colossaux.
Pour partie, on les paie. Quand il y a des zones de cap qu'il faut retraiter l'eau, on le paie. Les subventions à l'agriculture qui ne servent pas forcément à orienter le système dans le bon sens, on les paie. La sécurité sociale, les maladies chroniques qui sont en grande partie liées à la malbouffe, 100 milliards d'euros, on le paie. Mais ce sont des budgets différents. Et donc, on ne connecte pas. Donc, tant que ces coûts cachés ne sont pas, comme on dit, internalisés dans le vrai coût de la nourriture, il n'y a pas de raison de changer de logique économique.
Ça veut dire que le consommateur devrait être mieux formé, mieux averti, accepter de payer un peu plus cher, et puis après, il va falloir demander aux agriculteurs de travailler différemment. Mais comment on peut demander à des agriculteurs, on va dire conventionnels, qui croulent sous les dettes, qui croulent sous le travail, qui ont des rémunérations extrêmement faibles et parfois même négatives, de se convertir du jour au lendemain à ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie, oui. C'est ça ?
Il n'y a pas de réponse simple. Je vais prendre un exemple. Dans l'ouest de la France, le grand bassin laitier de production en France, ça fait 15 ans qu'il est montré que les éleveurs qui qu'on appelle herbagers, c'est-à-dire pour lesquels l'alimentation des vaches se fait à l'herbe. Ils polluent moins l'environnement, même ils rendent des services parce qu'il y a, il y a l'herbe, la prairie, qui joue un rôle écologique. Le lait est de meilleure valeur nutritionnelle pour nous, pour notre santé. Ils gagnent mieux leur vie, mais ces systèmes-là restent toujours marginaux. Pourquoi ? Ils gagnent mieux leur vie, c'est mieux pour l'environnement. Ça ne prend pas. Parce que ça va contre l'idéologie actuelle du rendement. Ces élevages ont des vaches qui produisent 5 ou 6 000 litres de lait, et il y a entre une et une vache et demie par hectare. Alors que les élevages plus intensifs, il y a 2 vaches par hectare et elles produisent 10 000 litres de lait. Donc en gros, il y a 2 fois plus de lait par hectare. Et donc on est dans, je dis on, pour détailler, dans l'idéologie, pour nourrir le monde, il faut produire.
C'est ce que dit M. Lactalis, c'est
oui.
Ça.
Donc plus c'est gros, plus on produit, mieux c'est. Ah ouais. Quoi. Et alors que c'est contraire même à l'intérêt économique des éleveurs, et c'est contraire au, ce qu'on peut attendre sur l'environnement et la santé. Quoi.
Mais est-ce que les, alors on a parlé des producteurs, on a parlé des consommateurs, mais il y a des filières. Dans les filières, il y a tout un certain nombre d'intermédiaires, à commencer par les coopératives, les abattoirs. On a, j'avais noté dans, tous ceux qui font les suivis sanitaires, la distribution, les grandes surfaces derrière ou tout simplement la distribution dans les commerces de ville. Tous ces gens prélèvent leur dîme au passage, tous ces gens en vivent et tous ces gens ont intérêt, effectivement, à avoir du volume qu'ils vont vendre, acheter le moins cher possible et vendre le plus cher possible. Donc, comment on fait là ?
Alors, je continue sur l'exemple du lait. Un lait fait à l'herbe, le problème c'est que c'est saisonné. La production laitière va surtout être importante au printemps, et donc elle va être plus basse en été et en hiver. Et ça, les industriels, ça ne les intéresse pas. Quoi. Donc on voit qu'il y a un verrou là, enfin. Donc je n'ai pris que l'exemple du lait. Après, on pourrait prendre d'autres exemples parce qu'on ne peut pas généraliser. Il faut prendre un petit peu au cas par cas. Quoi. Et donc, pour lever ces verrous, qui sont multiples, alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'agriculteur, il ne touche pas grand-chose sur 100 euros de nourriture que nous avons. Il touche moins de 10%. Quoi. Donc, de toute façon, même s'il gagnait ne serait-ce que d'autres, quelques pourcents en plus, ça ne changerait pas grand-chose au bout de la chaîne. Le problème, c'est que les prélèvements, ils se font entre le champ l'assiette, avec des logiques économiques qui sont écrasantes, puisque pour réduire les coûts, il faut toujours massifier, standardiser, concentrer géographiquement et spécialiser les systèmes. Donc tant qu'on ne tiendra pas compte des coûts cachés, il n'y a pas de raison, on reste enfermé dans ces logiques qui ne sont pas bonnes pour l'agriculture et qui ne sont pas bonnes pour le consommateur. Le nœud du problème, il est là, quoi.
Donc c'est pas le discours de la FNSEA pour le syndicat dit dominant, qui est un syndicat hyper productiviste.
Oui. Mais en fait, si je reprends l'exemple du lait là, qui est emblématique, il défend l'idée. Il faut produire beaucoup pour nourrir le monde. Et donc, à ce moment-là, c'est logique de continuer à faire comment ? Parce qu'on ne tient pas compte des dégâts collatéraux. Vous savez, les suicides chez les éleveurs laitiers sont. C'est là que c'est très important aussi.
Ben, il y a un suicide d'agriculteur à peu près tous les deux jours en France aujourd'hui.
Donc ça fait partie aussi des dégâts collatéraux. Hein. Il n'y a pas que notre santé, il n'y a pas que l'environnement. Quoi.
Quand vous voyez les agriculteurs manifester, ils ont manifesté il y a quelques mois, on sent là que ça refrémit, on va y revenir. On en parlera peut-être un jour ici à ce micro avec François Purseigle, que vous connaissez, le sociologue de l'agriculture. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces gens sont manipulés en réalité ? Parce qu'ils se tirent une balle dans le pied.
À long terme, il se tire effectivement une balle dans le pied. Et je pense qu'on manque de vision globale, enfin, c'est ce que j'essaie de promouvoir très modestement, pour montrer les interrelations qu'il y a. Et que là, on est dans un enfermement, un cercle vicieux qui n'est pas tenable. On le voit bien actuellement.
Et on va aller où comme ça ?
Actuellement, on va dans le mur. Enfin, je suis à la fois pessimiste quand je dis ça, bien sûr, mais je suis en même temps optimiste. Parce que il y a eu des grandes. Je suis chercheur et donc j'ai de la chance de ce côté-là. Et il y a eu des très grandes avancées scientifiques dans différents domaines, mais surtout sur notre capacité à relier les choses les unes aux autres. Selon ce que je mange, quel impact ça a sur l'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre, quel impact sur notre santé. On manque actuellement. Tout se passe comme si tout était déconnecté. Il n'y avait pas de relation de cause à effet. Que que mon assiette soit avec plus ou moins de viande, ça ne change rien, que ce soit du steak haché, ça ne change rien. C'est fondamental.
Ça, c'est un manque quand même d'éducation et d'éducation. De formation. Oui, oui, oui. Mais on ne va pas tellement dans ce sens-là aujourd'hui. Imaginez que M. Trump soit élu la semaine prochaine. Ça va partir à volo. Ce n'est pas son discours du tout.
Non, ce n'est pas son discours du tout. Mais on voit qu'il y a des ressorts de rappel. Ce qui se passe actuellement pour le climat, on le voit à la Valence en Espagne, les feux en Californie. On voit maintenant ce qu'on ne savait pas il y a 10 ans, ou pas fermement, maintenant on le sait, que ces aléas catastrophiques, leur fréquence et leur intensité va augmenter. Quoi. Donc à un moment donné, ça fait partie aussi de ces coûts dont je parlais tout à l'heure. Et ces coûts vont devenir insupportables. Donc à un moment donné, il faut...
Il va falloir quand même aller très loin pour que... Parce que là, on parle de changer, tout ça, c'est holistique. Il faut changer complètement...
De modèle de société, de système alimentaire.
La façon d'être au monde, carrément. vous pensez que c'est possible ?
En fait, il y a des microcosmes où ça se passe actuellement. Il y a des expériences, pour en revenir à l'agriculture, il y a ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux. Il y a de tout, mais il y a des choses emblématiques. Si je prends ce qui est emblématique, c'est la commune de Mouans-Sartoux, qui a changé. Mais je prends aussi la commune de Nogaro, ici, pour rester en Occitanie dans le Gers. Un cuisinier a révolutionné, si je puis dire, la cantine dans le primaire. Puis ensuite, c'est tout l'ensemble des établissements de la périphérie de Nogaro. Ensuite, il est maintenant le maître d'œuvre, en quelque sorte, pour un changement du système alimentaire. Donc il y a des choses positives. Le problème, c'est que c'est anecdotique. Et on n'arrive pas à passer à l'échelle après.
Le changement climatique, on le voit, amène une baisse des rendements importants. Donc baisse des rendements dans l'agriculture, ça veut dire dans la nourriture des animaux. Est-ce que ça va faire bouger les choses ?
Alors pour les animaux, ce qui va être catastrophique... En fait, j'ai étudié ça un petit peu il y a une dizaine d'années. Ce qui va se passer, d'après les projections, c'est que la quantité de nourriture nécessaire pour nourrir les animaux va être à peu près la même. Mais il va y avoir des variations interannuelles qui vont être considérables. Et des variations entre saisons considérables. Et donc ça va générer des coûts supérieurs aussi.
C'est ce que ça veut dire que notre alimentation va coûter plus cher ?
Alors là, on parlait de l'élevage, mais il n'y a pas que l'élevage. Il y a aussi les productions. Vous savez, les fruits et légumes, ils sont très sensibles au gelé. Mais ça veut dire que, si vous voulez, l'agriculture, il y a deux orientations possibles actuellement. Soit on reste sur des systèmes simplifiés actuellement. Là, nous sommes à Toulouse. Quand on regarde dans la campagne, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du blé.
Du maïs.
Un peu, mais surtout du tournesol, blé, tournesol, sol nu. C'est des systèmes qui sont très vulnérables et qui ne sont pas bons. Notamment le sol nu. On rejoint Marc-André Sellos parce qu'on laboure, on ne capte pas de carbone, il y a de l'érosion et tout. Et actuellement, si je simplifie, les politiques, elles disent, on va conserver ce système, mais on va l'améliorer par les technologies. Par la robotique, le numérique et la génétique.
Oui, ça, c'est la pensée magique.
Mais c'est ce qu'a présenté le président de la République, ça.
Oui. Mais il a présenté beaucoup de choses, il s'est planté sur beaucoup de choses aussi.
C'est quand même la voie qui est soutenue aussi par la FNSEA. L'autre voie, c'est de dire on diversifie les systèmes de culture. Donc c'est-à-dire que c'est plus à Toulouse, c'est pas deux cultures, on supprime le sol nu. On a des associations de culture, on a un mélange des variétés de blé pour les rendre moins vulnérables aux champignons et autres. Et on accompagne, si nécessaire, par les technologies, par la génétique, la robotique. Mais c'est d'abord la biodiversité. C'est ça la clé.
Mais la biodiversité aussi dans les élevages, parce qu'il y a quand même de moins en moins de races. C'est un peu uniformisé.
Oui. Alors c'est uniformisé, on rend les races, les animaux très vulnérables.
Oui, ils sont très vulnérables. À la moindre
nous avons été vulnérables. Oui. Nous, on sait que ce qu'on mange, on était plus ou moins vulnérables au coronavirus, au Covid. Mais les animaux, ils ont des systèmes d'alimentation très simplifiés qui les rend aussi plus vulnérables. Il y a aussi une sélection génétique qui uniformise, qui n'est pas bonne.
Comme pour les semences, une uniformisation là aussi.
Vous savez, toutes les maladies vectorielles qui s'attaquent actuellement aux animaux, j'oublie les noms, mais que ce soit la fièvre, la grippe porcine, la fièvre aviaire, la grippe aviaire, maintenant les maladies qui attaquent aussi les ovins, les bovins, et les faits. Il y a une trop grande concentration d'élevage, une uniformisation génétique, qu'on a rationalisé les élevages de poulets, c'est-à-dire qu'il y a les naisseurs d'un côté, après il y a ceux qui élèvent, et quand on fait ça, on transporte les animaux, et c'est comme ça qu'on disperse un petit peu les maladies. Donc ça devient c'est-à-dire ces maladies sont de plus en plus fréquentes, Vous savez, on a abattu, je crois, c'est 20 millions de poulets en France il y a deux ans, quoi. 20 millions de poulets, quoi. C'est des coûts énormes, parce qu'après, il y a une aide des agriculteurs, ce qui est normal. Mais donc, on est constamment dans le curatif. On ne sommes pas dans la prévention, quoi. Et vu l'amplitude des changements, vous voyez, on parlait tout à l'heure du climat, maintenant, on parle de la grippe aviaire. En fait, tous ces signaux deviennent de plus en plus prégnants. Et je pense que c'est ce qui va nous obliger à changer, parce que ça a un coût qui va devenir insupportable.
Les manipulations génétiques chez les animaux, ça, vous suivez ça?
Non, je ne suis pas capable d'en parler, je ne connais pas le sujet. Enfin, je n'ai pas une opinion scientifique. Voilà.
Parce qu'on voit, oui, sans avoir une opinion scientifique, ben on voit quand même, on cherche à améliorer les races,
oui,
pour les rendre toujours plus performantes. Donc on est toujours dans l'agro-business.
Oui. Alors il y a quand même, je prêche pour ma paroisse à l'INRAEL, je vois sur certaines espèces, maintenant on ne sélectionne plus uniquement sur la productivité, on sélectionne aussi pour la résistance aux maladies, quoi. Donc c'est quand même des choses positives, ça, nouvelle, quoi.
Oui, la résistance aux maladies, certes, mais moyennant quoi? Moyennant des tripatouillages génétiques?
Non, il n'y a pas d'OGM derrière, il n'y a pas de ces choses-là, non. C'est de la génétique classique, je dirais, quoi.
On fait une seconde pause musicale. Thibaut, c'est vous qui l'avez choisi, alors je vous laisse l'annoncer. Oui. Qu'est-ce que vous...
J'ai choisi de Jean-Louis Aubert, sa chanson « Merveille ».
Et de tout ça, tu es la plus belle. On va se noyer dans le septième.
Voilà, merveille de Jean-Louis Aubert, le choix de notre apprenti journaliste, on va dire comme ça, Thibault.
C'est bien ça.
C'est bien ça. Donc, on parlait de ce système qui nous conduit finalement dans le mur, hein, puisqu'on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Globalement, on peut le résumer comme ça. Mais on sait très bien ce qu'il faudrait faire quand même. Ça, on n'est pas dans le brouillard. Hein. On sait très exactement comment on pourrait améliorer les choses et peut-être sauver l'espèce humaine, sauver l'Homo sapiens de la catastrophe qui s'annonce à l'évidence. Mais l'Homo sapiens, il aime l'argent. Et donc aujourd'hui, le critère principal dans toutes les occupations, dans toutes ces occupations, c'est le fric et le profit. Est-ce que c'est le problème aujourd'hui de l'élevage, de l'agriculture, de l'alimentation ?
Ben, je pense que c'est le nœud, donc le problème majeur. Enfin, je rappelle que ce sont les logiques économiques actuellement qui prévalent, qui verrouillent le système, c'est-à-dire qui orientent l'agriculture dans le sens où elle est, qui n'est pas le bon, et qui orientent aussi nos choix de consommation qui ne sont pas bons. Et ces logiques économiques, ça va du champ à l'assiette, enfin ça va même de l'amont du champ.
Du champ à l'assiette, ça me rappelle un livre qui a été écrit, c'est Marc Dufumier, je crois.
Marc Dufumier, c'est ça, voilà. Mais quand je dis l'amont du champ, c'est quoi ? Ben, c'est toute l'agrofourniture. Actuellement qui va vers la robotisation, donc on va faire des engrais moins polluants et tout ça, mais c'est pas le problème de faire des engrais qui polluent moins, tout ça. Il faut en utiliser beaucoup moins, quoi.
Mais l'agriculteur, il est quand même un peu coincé. Par exemple, les coopératives, ils ont créé, ils sont rassemblés pour créer des coopératives, c'était leur outil, c'était leur objet. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est l'outil qui les a complètement esclavagisés. Ils dépendent complètement, ils leur vendent tout, ils leur vendent les semences, ils leur vendent les jeunes bovins, ils leur vendent les bottes, ils leur vendent les tenues, ils leur vendent les intrants, ils les tiennent complètement.
Là, c'est le courant dominant. Ceci dit, je connais des coopératives pas loin de Toulouse, qui est beaucoup plus vertueuse. Mais il faut être extrêmement courageux. Je vais quand même citer cet exemple-là. C'est la coopérative Calisol, près de Castelsarrasin, qui a pris l'initiative d'introduire des légumineuses dans les systèmes de culture. Donc il n'y a pas d'élevage. Hein. Au lieu d'avoir le blé et le tournesol, on introduit des légumineuses. Mais on introduit trois types de lentilles, du pois chiche. Mais ça demande beaucoup d'énergie et de vision, puisque si je passe de deux cultures à cinq cultures, je passe de deux silos à cinq silos. Donc il faut investir dans des silos. Si je mélange une graminée et une légumineuse, il faut trier. Et donc, il faut des trieurs optiques, il faut investir. Et donc ça, j'avais fait une étude en 2019, beaucoup de coopératives, qui sont des mastodontes, n'ont pas forcément cette vision et ne cherchent pas à se compliquer la vie. Donc, on est toujours dans l'esprit d'améliorer le système de culture, le système d'élevage, alors qu'il faut le changer. Il n'est plus d'actualité d'améliorer le système, ce n'est plus suffisant pour faire face aux enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés. Il faut le changer radicalement. J'utilise ce mot radical.
Oh, je crois qu'on vous a bien entendu. On en était convaincus avant que vous veniez. Mais je pense que les auditeurs, là, ont une grosse matière à réflexion. Alors, il y a quelque chose qui revient sur le devant de l'actualité. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est le fameux Mercosur. Hein. Vous savez que cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et un certain nombre de pays d'Amérique du Sud... serait sur le point d'être signé. Or, c'est vrai que la France a fait connaître son opposition, mais nous ne sommes plus un pays majeur en Europe. Hein. Nous avons vu où M. Macron nous a conduit. On n'est plus du tout écouté. Il faut savoir quand même qu'à travers le Mercosur, on va importer tous les ans 99 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volaille, 25 000 tonnes de porc, 35 000 tonnes de fromage et 45 000 tonnes de miel, le tout à bas prix, qui est travaillé et qui vient de gigantesques fermes d'usines, qui sont des usines, hein, sont des fermes-usines au Brésil, en Argentine, qui sont travaillées avec des intrants chimiques qui ne sont pas autorisés en Europe, mais que nous fabriquons, que nous leur vendons. On est bien content de leur vendre, mais ils vont nous leur envoyer dans les produits que nous avons. Donc notre alimentation va s'en trouver affectée, et la santé publique aussi. Comment vous réagissez quand vous voyez ça, qui va complètement à l'envers de ce que vous venez de nous dire pendant quasiment 50 minutes?
Ben c'est une catastrophe, on prend l'autoroute à l'envers, donc on risque de se faire écraser. Que dire de plus Et pour un chiffre précis sur la viande, par exemple, bon, j'étais tout à l'heure, j'ai pesé le pour et le contre de la viande, j'ai dit moins et mieux et tout ça. En Europe, pour un kilo de viande, c'est 15 kilos en équivalent CO2, quand on inclut le méthane et tout. Mais quand on est au Brésil, c'est le double, c'est le 30. Donc on va importer de la viande qui sera moins 10 ans environnemental, moins 10 ans du point de vue social. Et ça, c'est... Alors qu'on en consomme trop en plus, quoi. C'est un non-sens, quoi. Nous avons suffisamment de viande sur notre territoire sans en importer, quoi. C'est un non-sens complet. Et là, ça veut dire qu'il faut arrêter, il faut considérer la nourriture comme un bien commun, en quelque sorte, et arrêter de la considérer comme un bien comme un autre, comme une voiture.
Ah, justement, les voitures, c'est peut-être le problème du Mercosur. Madame von der Leyen, elle a envie que les Allemands vendent des Mercedes et des BMW.
Oui, mais on ne peut pas mettre sur le même plan une voiture et la nourriture. Ça n'a rien de comparable.
Ça dépend si vous êtes financier, industriel, ou si vous êtes un homme à peu près normal et de bon sens.
L'erreur fondamentale, c'est considérer qu'on fait de la nourriture, de l'agriculture, comme de l'industrie. Dans l'industrie, je n'ai pas d'opinion, pourquoi pas prendre, acheter les roues à un endroit, la carrosserie à un autre. Mais l'agriculture, l'alimentation, c'est du vivant. Et le vivant, ça se passe localement. Il faut qu'il y ait des arbres, des plantes assemblées et des animaux. Il ne faut pas dissocier, on prend un bout à un morceau d'endroit de la planète, l'autre à un autre endroit. Il faut que l'assemblage, en quelque sorte, de ce qui fait la nourriture, ça se fasse dans les territoires localement. Donc c'est une erreur fondamentale, ce Mercosur, et de considérer l'agriculture comme l'équivalent, ou donc pouvant compenser les importations et les exportations. C'est une erreur fondamentale.
On est d'accord. Le glyphosate, un mot sur le glyphosate. Vous avez vu que l'herbicide a été autorisé jusqu'en 2033. Bon, on sait depuis longtemps tous les méfaits, tout ce qu'il peut causer. Ça vous choque, ça aussi ?
Alors, je suis choqué, parce que c'est encore une erreur, à la fois pour l'environnement et pour la santé. On sait que c'est dangereux. Par contre, ce qu'il aurait fallu, c'est de le prescrire un petit peu sur ordonnance dans des situations particulières. Donc, sur ordonnance, c'est pour un temps donné.
Donc, et dans un lieu précis.
Et c'est précis, parce que nous avons des sols dégradés en Europe, et que les 3-4 premières années où on restaure la santé du sol, ça peut être un outil comme un antibiotique pour moi quand je suis malade, durant ce temps. Mais ça veut dire qu'il faut initier en même temps des changements radicaux dans l'agriculture. Qu'est-ce que c'est ? Il faut une couverture permanente du sol, ce qu'on n'a pas ici à Toulouse. Il faudrait associer des variétés, des espèces ensemble, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne soutient pas. Il faudrait aussi introduire ce qu'on appelle des plantes étouffantes, comme le chanvre ou la luzerne, qui empêchent les mauvaises herbes. Mais il faut créer une filière spécifique. Donc, moyennant tout ça, on peut s'en passer. Mais il faut que ça soit dit et préparé. Il faut que ça soit organisé. Donc, le laisser ouvert pour 30 ans, c'est une aberration. C'est contre-productif pour les écosystèmes et pour l'environnement. Et l'interdire strictement du jour au lendemain, sans un certain nombre de cas particuliers, c'est peut-être aussi une erreur.
On n'a pas trop parlé des sols, on a évoqué Marc-André Sellos qui travaille là-dessus. Moi, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, qu'en 60 ans, ces sols ont perdu 80% de leur matière organique et de leur population bactérienne et fongique. C'est exact, j'imagine.
Bon, c'est exact, mais c'est dramatique. Parce que vous parlez des microbes, des bactéries dans le sol qui sont autour des racines. Pour qu'elles existent, il faut qu'il y ait de la matière organique. Et quel est le rôle de ces microbes ? Ce sont des alliés de la santé des plantes. Donc si on ne reconstitue pas ce capital, l'utilisation des pesticides est obligatoire. Elle est nécessaire. Donc tant qu'on ne revient pas aux fondamentaux de l'écologie, donc là, restaurer la santé du sol par la matière organique, avec tout ce que je disais, on ne peut pas supprimer les pesticides. On va simplement utiliser des technologies pour les réduire un peu. Mais ça ne suffit pas pour atteindre et face aux grands enjeux sanitaires et environnementaux. Nous sommes dans une impasse totale.
Alors, on avait les pieds sur terre. Si on va un peu voir ce qui se passe du côté de la mer, et notamment de l'élevage de saumon. Alors, je sais que ce n'est pas votre spécialité, loin s'en faut, mais il y a quand même beaucoup d'ONG qui alertent sur ce qu'ils appellent une bombe écologique et sociale liée à la surconsommation de saumon. On a une étude qui vient de révéler que 26% des poissons pêchés sur la planète servent à nourrir les saumons d'élevage. Donc ça fait des quantités astronomiques, hein, d'anchois, de maquereaux, de sardines, de harengs, réduits en farine et transformés en huile de poisson. On appelle ça des poissons fourrage. C'est un drôle de mot, mais bon. Donc ça désigne complètement la chaîne alimentaire, comme l'a écrit le Canard enchaîné. On voit des bateaux-usines qui pillent complètement la ressource, notamment au large de l'Afrique, ce qui fait que les pêcheurs locaux n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et le saumon industriel, bon, il s'en avale chaque année 3 millions à peu près de tonnes. 70% de ces poissons consommés dans l'Hexagone sont produits sur des fermes norvégiennes. Je crois qu'il y a même à peu près dans les 1200 fermes en Norvège. Où est-ce qu'on va aussi là-dessus, dans ce sens-là ? C'est pareil, c'est la même philosophie qui
même
produit,
logique.
Ou logique, si vous voulez, qui produit un peu les mêmes effets.
Tout à fait. Parce que qui dit effectif de grande taille, concentration, dit donc des risques, notamment pour la santé des poissons, donc dit antibiotiques. Alors, soit on utilise, comme vous le disiez, des animaux, des poissons de début de chaîne alimentaire, mais qu'on nous pourrait nous manger nous. Soit on utilise finalement des aliments, mais font que la composition du poisson n'est pas la même. C'est-à-dire que ce qui est vertueux dans le saumon, du point de vue de notre santé, il y a des choses pas vertueuses, le mercure, mais sinon. Ce qui est vertueux, c'est les oméga-3. Mais si on alimente par des poissons différemment, on perd cet atout. Et j'en reviens aussi, les maquereaux et les sardines, il faut les manger nous. C'est-à-dire, plus on rallonge la chaîne de fabrication des protéines, plus on génère de pertes. Hein. Donc si on doit manger du poisson, il faut manger les petits poissons gras. Même si c'est moins noble que le saumon. Hein, j'entends les... En plus, ça ne coûte pas cher, la sardine et le maquereau. C'est très bon pour la santé. Donc ce n'est pas la peine de manger du saumon, enfin.
Donc là aussi, on sait qu'on va dans le mur, mais on continue à y aller joyeusement et à toute vitesse. L'heure a presque sonné de la fin de cette émission, mais il est peut-être temps de donner à nos auditeurs quelques conseils de lecture. Vous avez quelques livres qu'ils pourraient lire avec profit pour poursuivre la réflexion que vous avez amorcée à ce micro.
Oui, alors j'ai deux livres qui m'ont marqué, que j'ai lu récemment. Il y en a un, ça s'appelle « La Terre pour tous », donc il existe en français. C'est la suite du rapport Meadows. Quoi.
D'accord.
Donc, je n'ai plus l'auteur, mais donc, en gros, ce qui est dit, c'est qu'on a deux changements majeurs à faire, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Il y en a un sur l'énergie, on n'en a pas parlé. On a parlé d'alimentation, d'agriculture. Mais la condition, il y a trois conditions pour ce faire, ces changements dans l'agriculture et l'alimentation, réduire les inégalités, réduire la pauvreté et faire de l'éducation. Quoi. Et deuxième message, c'est que le chemin pris, c'est à petits pas et trop tard, et qu'il faut faire des pas de géant maintenant. Voilà. Ça, c'était le premier livre. Le deuxième livre s'appelle « Le suicide de l'espèce ». J'ai oublié l'auteur qui est un médecin. En gros, l'idée, c'est de dire que finalement, notre système économique, finalement, il génère des risques. Et on dépense beaucoup d'argent pour corriger ces risques et pas les prévenir. Les risques pour la planète et pour notre santé.
Bien, alors moi je vais poursuivre avec deux livres, un de chez Fayard d'Éric Orsenna, Cochon voyage au pays du vivant ou à travers le cochon, parce qu'il dépasse très largement cet animal, il va nous faire voyager un peu partout dans le monde et nous expliquer comment certains pays, comment certains territoires, même français, hein, parce qu'on va aller en Bretagne, on va aller en Chine, on va revenir dans l'histoire. Enfin, vous connaissez Orsenna, c'est toujours assez brillant. Ce sont des lectures un peu champagne, hein, toujours très agréables, très documentées. Cochon, donc, voyage au pays du vivant. Et puis, un livre qui est sorti il y a quelques semaines, c'est très récent, de Gaspard Koenig, Agrophilosophie, réconcilier nature et liberté. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et là, Gaspard Koenig nous dit qu'il a entrepris de cultiver son jardin et en bon néo-rural, il va être un peu dépassé par la nature, mais il va aller voir quelques vieux amis philosophes et là aussi c'est une lecture extrêmement agréable et profitable. Et pour terminer, juste un rappel, la salle Horizon qui est à Muret le 23 novembre 2024 à 20h30 accueillera un spectacle italien, un spectacle autour de les musiques de films italiennes. Ce sera présenté par Bruce de Galzin, qui est le directeur de France Bleu Occitanie, mais qui a surtout été le correspondant de Radio France à Rome pendant des années. Et là, ben, on va entendre des musiques que l'on a certainement beaucoup appréciées, Nino Rota et d'autres, autour de ces films, avec des chanteurs. Il y aura Morgane Bertrand, qui est chanteuse et comédienne, soprano. Il y aura le ténor Muretin, il va jouer à domicile, mais qui a une carrière internationale, Jean-Pierre Furlan. Donc, vraisemblablement, une belle soirée qui s'annonce. Notez la date, 23 novembre 2024 à 20h30. Nous sommes arrivés au bout, non pas de ce qu'il y avait à dire, mais de notre émission. J'imagine, Michel Durut, que vous accepterez, je l'espère, à tout le moins, de revenir nous parler de tous ces problèmes. Merci d'avoir consacré cette fin de matinée. Merci Thibaut de Surville et bon courage pour la suite des études.
Merci.
C'était Arcania, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Grégoire Nachès, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Arcania et surtout, on ne lâche rien. Belle journée à toutes et à tous.